Elsie Marc-André, salut.
Allô?
On va revenir sur cette triste histoire. Un homme de 65 ans qui a perdu la vie à Sainte-Terre pendant que l'urgence était fermée. Là, on en a parlé des circonstances de ce décès-là un peu plus tôt. Est-ce que ce décès aurait pu être évité? On sait, entre autres, que le coroner, finalement, va mener son enquête. Il a changé son fusil d'épaule, Marc-André.
Oui, effectivement. Donc, ce matin, quand on s'est levé, les informations qu'on avait du gouvernement, de M. Legault, M. Dubé, c'est, bon, le coroner, il fera pas enquête, Fait que c'est la ligne un peu, là, défensive du gouvernement. Mais là, ce qu'on a appris plus tard dans l'avant-midi, lors du dîner, ben là, c'est que finalement, le coroner, il a changé son fusil d'épaule, il va en faire une enquête. Parce que je pense aussi, T'sais, habituellement, le coroner, il va faire quoi? T'sais, grosso modo, il va faire des enquêtes sur des morts qui sont suspectes, ou qui va ou ce qu'on mérite d'aller chercher, d'approfondir un petit peu plus loin. Là, dans ce cas-ci, on sait ce qui est arrivé. Le monsieur, il a appelé le 911 à 2h40, s'est rendu à l'hôpital de Val-d'Or parce que l'urgence à Sainte-Terre était fermée à 5h, puis par la suite, il s'est ramassé. Il fallait qu'il se rende à l'hôpital d'Amos. Fait qu'on sait ce qui s'est passé, puis les gens qui étaient autour de ces deux, trois événements-là ont bien agi. Le problème, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est que c'est ça que le coroner va vouloir savoir, c'est si l'urgence de Sainte-Terre avait été ouverte, est-ce qu'il serait encore vivant aujourd'hui? Et ça, c'est peut-être dur à dire. On va voir ce que le coroner va trouver. C'est lui de spécialiste, mais.
Ce qui est fou dans cette histoire-là, c'est la question des soins en région. Tu sais, on n'a pas le choix d'y penser, là. Puis il a été question du délestage pendant la pandémie d'urgence qui ont fermé un peu partout au Québec. C'est déjà dur là, dans certaines régions éloignées. C'est de dire au niveau de François Legault, de Christian Dubé, que ça n'a pas de lien. Puis là, je comprends qu'on va faire enquête, fait qu'on rétro-pédale un peu, là, mais tu sais, c'est comme le cauchemar de toutes les régions de vivre un scénario comme ça. Puis de se sentir aussi un peu comme. Tu sais, des citoyens de seconde zone.
Oui, mais on le savait, on en a parlé ensemble au courant de l'automne. Moi, j'ai écrit un texte sur le site du journal le 24 septembre. Je parlais de cette situation-là à Sainte-Terre. M. Dubé est allé, mais il n'y a pas vraiment de solution. La PDG du CIS a dit que non, tout était correct. Et puis là, ce midi, M. Legault était en annonce là, au Musée national des beaux-arts du Québec, puis il se fait poser une question, est-ce que dans l'immédiat, vous allez prendre des mesures? Le M. Legault, bien, il revient à dire qu'il manque beaucoup d'employés, puis on a 40% du personnel de la santé qui sont à temps partiel. Moi, je trouve le gouvernement aujourd'hui, là, j'y trouve pas sa bonne traque, là. Il faudrait un peu plus dans la compassion. Il faut faire attention de la récupération.
Mais dans l'humilité aussi. Oui, ben, Dominique Anglade, parlant de récupération politique, comment vous avez trouvé sa réaction, qui était assez accusatrice, là, elle-ci, quand même?
Oui, ben moi j'ai trouvé c'est le rôle de l'opposition là de poser des questions comme celle-là. Puis ici il y a quand même comme Marc-André l'a bien soulevé, ça fait longtemps qu'on parle de cette urgence-là. Ça fait longtemps que la communauté se mobilise pour dire ça n'a aucun sens parce que les services sont beaucoup trop éloignés. Donc on arrive à un cas bon de mortalité, on aura l'enquête, mais reste que aujourd'hui c'est quelqu'un qui est décédé. Mais il y a d'autres cas là, de personnes qui réussissent peut-être pas à avoir les soins dont ils ont besoin dans des temps appropriés, puis qui ont des complications, qui sont peut-être pas décédées. Mais bref, on peut pas vivre avec cette situation-là. C'est sûr qu'elle y est allée fort. Mais en même temps, moi, j'étais surprise de la réponse du premier ministre, parce que j'écoutais ça. Puis, il nous parlait, écoutez, ça n'a aucun lien avec la fermeture du CLSC. Là, il nous parlait CLSC comme un peu pour créer une confusion. Mais moi, j'écoutais ça, puis il disait carrément à Dominique Anglade qui était dans le champ, tu sais, alors que on parle bien de l'urgence dans le CLSC, mais peu importe. C'est pas un CLSC comme les autres dans cette municipalité-là.
Exactement.
Donc, moi, je pense que c'était correct ce qu'elle a fait. J'ai pas aimé la réponse de M. Legault, de M. Dubé. Où je trouve M. Legault efficace, c'est quand il répond à l'opposition puis il dit, qu'est-ce que vous feriez, vous? On a eu un système de santé en lambeaux. On vient de passer à travers la COVID. Il n'y en a pas d'infirmières. On n'est pas capable de donner le service. Quand il dit ça,
je comprends aussi, mais il n'y en aura pas de miracle. Ça, je le comprends bien, mais toujours de mettre ça sur le dos de l'État dans lequel ils ont trouvé le système de santé puis le système d'éducation.
En tout cas, moi, j'aime mieux ça, cette franchise-là, puis dire là, on remue, tu sais, ils devraient rajouter, on remue toutes les pierres, on fait tout pour régler cette situation-là. Et c'est inacceptable. Plutôt qu'ils nous disent, non, 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 c'est pas de la faute de la fermeture du CLSC, tu sais, comme voyons donc, là, ça tenait pas
la
route.
Ça là-dessus, là. Ouais, puis ça là-dessus, là, de dire, oh, non, 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 c'est pas la faute de la fermeture de l'urgence, puis elle, si tu le dis bien, c'est que là, ils ont essayé de jouer un peu ses mots, mais là, oh non, non, parce que là, le coroner, là, rapidement, hier, là, parce que tu sais, ça fait pas 3 semaines que c'est arrivé ce décès-là, c'est en nuit de mardi, fait que là, mais là, le coroner, il vient sur l'heure du lunch, il change d'idée, le coroner. Il
y en mais a mettez-vous à la place de la famille qui entend tout ça. Tantôt, Benoît parlait à la fille de la victime, tu sais, de l'homme qui a perdu la vie, cet homme de 65 ans.
C'est pas vieux, là, 65 ans.
Ben non, puis t'entends le premier ministre se défendre de tout ça, l'opposition dire, ben là, ça n'a pas de bon sens. T'sais, ça vire en chicane au Salon Bleu. Je trouve qu'il y a quelque chose de... qui relève du cirque, qui est très déplacé si je me mets à la place de la famille de cet homme-là qui vit l'enfer en ce moment.
Pour la famille, non, c'est sûr que pour la famille, c'est atroce parce que ils ont perdu un être cher. Mm. Après ça...
Là, c'est rendu dans tous les journaux, puis là, tout le monde en débat.
Mais ça fait des semaines que les gens à Sainte-Terre, ils sont mobilisés.
C'est vrai.
Ils sont dehors avec des pancartes. Puis qui ont un groupe Facebook. Moi, quand j'écris mon texte, ils l'ont partagé, sont mobilisés, puis sont là, puis M. Dubé est allé, puis il essaie de rencontrer, puis le maire qui s'est pas représenté, maintenant c'est une mairesse. L'ancien maire est allé à Québec, il y a eu une rencontre vraiment, là, dans le code de porte. Fait que c'est comme si le gouvernement, et on savait tout ça, on savait que c'était écrit dans le ciel.
Puis là, on a un visage, puis on a un nom.
Le coroner s'en occupe pas. Ouais. Le coroner va s'en occupe pas, mais là, le coroner va s'en occuper.
Ben écoute, tu n'avais pas le choix. Ouais,
puis l'autre chose, je veux juste rajouter l'autre chose aussi qui fait mal dans ce dossier-là, c'est que la municipalité, la mairesse, ce matin, j'ai écouté une entrevue, puis elle racontait que la communauté est en train de se mobiliser pour trouver de l'argent pour payer les fameuses primes pour les infirmières, pour que ça soit plus attractif.
Mais
ça, c'est pas la communauté de faire ça, là. C'est une problématique. Le gouvernement du Québec doit agir. Puis si il y a des endroits au Québec qui ont des pénuries de professionnels, ben on doit mettre les moyens. Puis si c'est des primes encore plus élevées, ben je pense que c'est ça quelque part, là. Donc
évidemment,
c'est vraiment un dossier important, puis malheureusement, puis effectivement, nos condoléances à la famille, mais des fois, ça prend des exemples concrets pour faire bouger les choses, puis je pense que ça va se passer, en tout cas, j'espère.
Richard Genet, qui devient le visage des coupures, des fermetures d'urgence, c'est triste, c'est terrible à dire, mais ça va peut-être forcer le gouvernement à bouger à ce niveau-là. Parlons de la fermeture du centre de vaccination au Palais des Congrès. Elsie, c'est drôle parce que en fin de semaine dernière, c'était le Salon du Livre. C'était au Palais des Congrès et il y avait deux entrées. Tu avais l'entrée du salon et l'entrée des gens qui allaient se faire vacciner. Il y avait quand même pas mal de monde, pas mal d'enfants, évidemment. Mais là, tout ça, c'est fini. Pourquoi?
Ben écoute, moi, je suis tombée sans connaissance quand j'ai entendu ça ce matin. Le Palais des Congrès, c'est le plus grand centre là, avec le stade olympique.
Oui, puis il y avait même la rumeur. On disait, c'est juste là qu'ils vaccinent les enfants, mais non, vous pouvez aller dans n'importe quel centre de vaccination.
Exact, mais tu sais, ce qui fait pas de sens, c'est que c'est pas parce qu'ils ont pas besoin du centre qui va fermer, c'est parce qu'on n'a pas réussi à s'entendre pour renouveler le bail. Donc, c'est-à-dire que le Palais des Congrès a réservé les espaces pour un nouvel occupant. Puis là, moi, là, tu sais, on est en urgence sanitaire.
C'est mieux de pas être le salon de l'auto.
Ben non, mais tu te dis, mais comment se fait-il? Puis moi, je sérieusement, je pense que le PDG du Palais des Congrès va devoir répondre de ça. Parce que là, ils sont pas capables de renouveler, donc ils vont devoir quitter les lieux, vont mettre un site alternatif qui va être près du métro Berry-UQAM, mais ça sera pas à côté, il y aura pas de stationnement, ça va être bien plus compliqué de se rendre là. Et les coûts que ça va engendrer, donc déplacer tout ça, là, donc en tout cas, je ne peux pas m'expliquer ça. J'espère que je vais avoir une issue différente. Là, ça fait pas de sens.
Je te lisais ce matin sur Twitter, tu disais être contente d'avoir pris ton rendez-vous dans un centre de vaccination parce que comme bien des parents t'ont appris qu'à l'école que fréquentent tes enfants, il y aurait pas de vaccination.
Ben oui, c'est ça. L'autre affaire sur la vaccination des enfants. Donc, OK, on va vacciner à l'école tout le monde.
Ouais.
Attendez d'avoir des nouvelles. Bon, toi, moi, puis plein d'autres personnes, puis la majorité, pas la majorité, mais
beaucoup de gens. Beaucoup de gens.
On s'est rendu. Oui. Exactement. Pour être sûr d'avoir le plus tôt possible la vaccination de nos enfants. Moi, j'ai reçu la communication hier, si je me trompe pas, de l'école qui nous annonce que non, il y aura pas de vaccination à l'école. Donc là, je me mets dans la peau de ceux qui ont attendu la vaccination à l'école.
Surtout qu'on sait, là, que dans les cas, elle-ci, puis dans les éclosions, c'est majoritairement des enfants, là, de moins de 10 ans, là.
C'est exactement plus de 5000 aujourd'hui. Là, on voyait dans le Journal de Montréal un tableau. Donc, c'est dans les écoles, c'est le 0-10 ans qui est la cible principale. À l'école de mes enfants, à titre d'exemple, il y a une grosse éclosion majeure à l'heure actuelle. Et là, j'écris pas à la directrice, OK, donc là, il n'y a pas de vaccination à l'école. Allez-vous au moins avoir des statistiques, t'sais? Donc savoir grosso modo ça va comment la vaccination, parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est la direction de la santé publique qui donne, qui dicte, ah, toi telle école crée de la vaccination, toi non.
Mais
les
pourquoi?
Écoles ont quand même une latitude pour peut-être pouvoir le faire. En tout cas, il y a vraiment un manque de clarté là-dedans.
OK, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire là, sur les statistiques. Moi, j'ai reçu une feuille en début de semaine passée, là, quand on a annoncé tout ça, la vaccination des enfants. Ben, enfin, à la fin de la semaine passée. Et à la fin, là, c'est une autorisation vaccinale. Et à la fin, tu as le choix d'autoriser ton enfant ou de refuser. Puis là, il y a deux motifs de refus possibles. Tu as refus net et frais de sec, là, ou tu as refus parce que l'enfant est déjà vacciné. Moi, je posais la question, je me disais, combien de parents là qui veulent pas se faire écœurer parce qu'ils sont anti-vax vont cocher « j'ai déjà fait vacciner ». Il n'y a aucun moyen de vérifier. Il n'y a pas de preuve vaccinale, en tout cas, à venir jusqu'à maintenant, qui m'a été demandée à l'école des enfants.
Oui, puis nous, moi, mon école, on n'a pas demandé ça.
Ils ne vont jamais te demander non plus.
Ben, c'est ça. Donc, si tu ne veux pas te faire écœurer, si tu es le parent, tu remplis la feuille, puis tu fais, je l'ai fait la vaccination.
Ben, c'est ça l'enjeu, parce que...
Ouais. Vas-y, Marc-André.
Non, c'est parce qu'au début, puis moi, comme parent, c'est ça que j'ai fait. T'sais, au début, le ministre Robert, j'ai dit, il va avoir la vaccination dans les centres qu'on connaît et à l'école. Fait que là, j'ai dit, comme parent, je vais essayer d'offrir la meilleure expérience pour mon enfant.
Donc, tu y vas.
Je suis un peu trop. je me suis dit, je vais attendre de voir la communication de l'école. J'attends un petit peu. La communication de l'école, moi, est arrivée la semaine dernière. Mais dans le fond, j'avais le choix d'aller au Palais des congrès de Gatineau ou que mon enfant, pendant ses heures d'école, parte en autobus pour aller au Palais des congrès.
Mais non, c'est ridicule. Puis moi, chez nous, c'était le 17 décembre, la vaccination à l'école. T'sais, pour la protection du temps des fêtes, on repassera, là.
Mais ouais.
Ben, dans le fond, moi, j'attendais pour avoir un choix, mais dans le fond, le choix, il est le même. Parce que
c'était l'autobus ou le char.
C'est ça. On va aller sur. Fait que là, on a pris un rendez-vous, tu sais, par nous-mêmes, dans le fond, le choix, c'est la même à la fin. J'ai attendu, mais un peu pour rien.
Ouais.
Mais c'est ça. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que, aujourd'hui, il y a 49% des enfants qui ont pris rendez-vous, là, soit à l'école ou dans un centre de vaccination. Donc, c'est une bonne nouvelle. On dit que ça progresse bien. Mais l'enjeu, c'est pas ce premier 50%-là là, de gens motivés, crainqués, qui veulent faire vacciner. C'est l'autre 50% de ceux qui, tu sais, puis moi, je pense qu'à l'école, ça aurait peut-être accéléré les choses pour bien des gens. J'espère au moins qu'il va y avoir un plan pour le mois de janvier là, pour être capable de faire l'état de situation. Puis d'être capable de déterminer, est-ce qu'on doit faire des actions supplémentaires? Parce que là, on dirait que c'est laissé comme ça à chacune des écoles. Moi, en tout cas, j'aimerais savoir plus de détails sur ces questions-là.
Oui, puis on verra les éclosions aussi qui vont se produire après le congé des fêtes. Il nous reste une grosse minute, Marc-André, pour faire un retour sur cette loi qui va interdire les thérapies de conversion. Puis fait intéressant, là, si ce projet de loi-là va de l'avant avec le Sénat et tout ça, là, il sera désormais illégal d'envoyer quelqu'un à l'étranger pour en subir une aussi, une thérapie de conversion. Ouais. J'ai parlé à quelqu'un qui en avait subi une. C'est épouvantable, les séquelles qu'il en conserve, même encore aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard.
Non, effectivement, rapidement. C'est un projet de loi, là, c'est comme la troisième fois que les libéraux essaient de passer ça, de bannir ces thérapies-là. C'est mort au feuilleton à cause de la campagne de l'automne, on s'en rappelle. Et là, c'est sûr que les libéraux pensaient là, un peu jouer un piège aux conservateurs. Puis les conservateurs, on s'appelle qu'il y en a qui avaient voté contre ça dans le Parlement précédent. Fait que là, ils pensaient un peu que les conservateurs allaient être au piège avec l'aile plus. Et non. Et là, M. O'Toole, je trouve que c'est un excellent coup qu'ils ont fait hier. Il n'a pas fait beaucoup là dans ces derniers temps.
Soulignons-le.
Faut le souligner. Fait que là, ils se sont levés, ils ont fait une motion. Puis le fait que le projet de loi, là, vraiment soit, il s'en aille directement au Sénat. Fait que première, deuxième, troisième lecture, tous les votes, tout ça, là, ça s'est fait en 30 secondes d'écart hier. Et là, c'est renvoyé directement au Sénat. Fait que les libéraux ont été surpris. L'ensemble des partis aussi. Fait que là, il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de vote. Donc, le projet de loi tel que déposé pour mettre fin à ces thérapies-là, qui sont peu connues du grand public, hein, c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup parler, mais qui existe, ben là, ça s'en va au Sénat. Fait que c'est sûr que dans ce Parlement-là, ça va devenir une loi. Fait que enfin, ça va être accompli. Mais un bon coup des conservateurs de vraiment régler le dossier. On passe à autre chose. Fait qu'ils ont une bonne discussion, je pense, au caucus. C'est une victoire là pour M. O'Toole.
Puis il faudra voir ensuite.